suis très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Bonjour, une nouvelle semaine, c'est un nouveau défi. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous choisir. Nous sommes au lundi 21 octobre 2024. Il sonne 11h sur votre radio. Et vous comprenez sans doute que c'est l'émission Club de la Presse qui démarre. Bienvenue au club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Michel Kokou, Vitor Betomega est à la mise en onde. Géraud Akuta assure la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou au micro. Salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Anéro, Radio La Paix à Takpamé, Centrale FM à Sokodé, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapan. Vous avez ce privilège de nous suivre aussi partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre page Facebook et aussi notre chaîne YouTube. Mais vous pouvez nous suivre aussi sur nos radios partenaires en ligne, Ibn Radio et Radio Les Bénins. De la presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité de notre pays et aussi alors d'ailleurs ou de l'Afrique et du monde entier. Et vous savez que c'est avec nos confrères journalistes en studio avec moi, Jacques Dakouti. Bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour aux auditeurs, auditrices, bonjour à mon ami personnel qui est dans ce studio, Ketomania. C'est vrai que quand vous traduisez Ketomania en français, c'est qu'il dit qu'il a beaucoup d'ennemis. Mais j'espère que nous sommes ses amis.
Beaucoup, beaucoup d'ennemis qu'il ne connaît pas.
Bon, ça c'est son problème. Donc, Dieu va s'occuper de lui. Donc, Pascal, si tu le permets, j'ai suivi une vidéo, Pascal. Je voudrais vraiment te demander quelques minutes pour essayer d'interpeller le ministre de la Sécurité et le ministre de la Justice. Si les faits relatés par cette dame, si cette vidéo sont avérés, il faudrait que le ministre de la Sécurité et le ministre de la Justice fassent leur travail. Parce que ce n'est pas du tout bien. Voilà une dame qui se plaint du fait qu'on a arrêté son mari. Parce que c'est une vidéo, on a vu la silhouette de son mari. C'est ce qu'elle dit sur la vidéo. Et le mari a été arrêté. Finalement, je crois que le mari a été déféré en prison. Si c'est vrai ce qu'elle dit sur cette vidéo, il faudrait que le ministre de la Sécurité, celui de le ministre de la Justice, fasse vraiment un travail de fond pour situer l'opinion par rapport à la situation de ce monsieur.
Alors, je ne comprends pas, Jacques. On a vu la silhouette de son mari. Dans quelles conditions?
C'est ça. Il paraît que, bon, comment on appelle ça? C'est une vidéo surveillance qui a capté, je crois, l'image du monsieur. Et je crois que c'est au niveau des services de renseignement, je ne sais pas, ou bien la DPJ. C'est là-bas qu'on l'a, on a convoqué le monsieur. Et finalement, le monsieur s'est retrouvé là-bas après. On l'a déféré en prison. Comme je l'ai dit, les contours effectivement de cette vidéo, comme ça fait le tour de la toile, il faudrait que nos autorités élucident effectivement ce problème. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Est-ce que c'est vraiment à cause de la silhouette de ce monsieur qu'on l'a arrêté? Parce que la dame a parlé également du passé un peu sulfureux de son mari. Elle l'a reconnu. Mais elle ne pense pas que c'est ça qui fait aujourd'hui arrêter ce monsieur. Donc je crois que c'est le lieu d'inviter une fois encore le ministre de la Justice et celui de la Sécurité à situer l'opinion par rapport à ce qui s'est réellement passé et sur effectivement l'arrestation de ce monsieur.
D'accord, Jacques, merci beaucoup pour cette interpellation et merci surtout d'avoir répondu à notre invitation pour ce débat. Gosson Ketomania, bonjour.
Bonjour Pascal.
Il semble que vous êtes l'ami personnel de Jacques.
C'est vrai.
Finalement, vous ne répondez plus. Alors, j'espère que vous avez bien passé le week-end.
On rend grâce, comme d'habitude. Et s'il dit que je suis son ami personnel,
c'est l'essentiel. Tu as quelqu'un qui te porte alors dans son cœur. Ça veut dire que c'est déjà suffisant. D'accord. Merci d'avoir répondu aussi à notre invitation. Et le fils de Couvé aussi est là. C'est Didier Assoba. Didier, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour aux auditrices et auditeurs de Canal FM. Bonjour à mes aînés en studio et je ne doute pas que les aînés me portent dans leur cœur autant que je les porte aussi dans mon cœur.
Tu as bien passé le week-end?
Bah, Dieu fait grâce, à part ce qu'il n'y a pas actuellement à Lomé, l'argent qui fait rare. Le reste, ça va, on a la vie, on a le souffle, on a la santé. On n'est pas alité quelque part. On a pu passer le week-end comme on le pouvait. D'ailleurs, notre président a pu quitter son royaume de là-bas jusqu'à chez nous ici. Ça veut dire que ça va, ça va.
C'est l'essentiel.
C'est l'essentiel.
Et l'essentiel même d'ailleurs aussi, c'est que le président ait pu faire le déplacement.
Oui, un président qui quitte son royaume.
Pas n'importe quel président.
Là. Non. Le président des JPTE.
Et il faut le définir.
Bon, prochainement.
Prochainement, d'accord. Allez, chers confrères, nous serons aussi en compagnie alors d'un invité. Et l'invité, c'est Marus Bani. Marus, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes le vice-président alors du Conseil national de l'ordre, national alors des ingénieurs du Togo. Nous vous avons invité pour des sujets. Qui font justement l'actualité. Et ce sujet, vous le savez très bien, je veux bien parler même d'ailleurs de cet effondrement de l'immeuble à Sabado, et ce qui a créé même de l'émoi et aussi de la consternation le vendredi dernier. Nous allons revenir largement sur le sujet. Et c'est vrai que déjà après l'événement, il y a le gouvernement qui a fait sortir un communiqué. Le gouvernement, déjà il y a trois ministres qui ont signé ce communiqué. Il y a le ministre de l'administration territoriale, le ministre Awate Odabalo et également l'ambassadeur Kalis Batossi Madjulba, ministre de la sécurité, et Yawa Digbondi Tsegan, ministre de l'urbanisme. Et déjà dans ce communiqué, il y a le bilan qui a été donné par rapport à cet incident qui s'est produit. Malheureusement, il y a eu 3 morts dans cet incident et 4 blessés. Et 3 morts, dont le propriétaire même d'ailleurs de l'immeuble, qui est revenu de l'étranger, comme on nous l'a signifié alors dans le développement même d'ailleurs de ce fait. Alors, chers confrères, d'abord, je voudrais quand même, Jacques, je ne sais pas quand vous avez accueilli cette information, comment vous l'avez accueillie?
Bon, il faut reconnaître que c'est avec tristesse, parce qu'on ne peut pas imaginer, Pascal, qu'on dise qu'un compatriote vive à l'étranger et avec ses maigres sous, il essaie de construire un immeuble et qu'il revienne, c'est-à-dire le soir et que la nuit, au petit matin, l'immeuble puisse s'écrouler. Donc, nous avons l'habitude de passer vers cette voie. On a toujours vu l'immeuble là, il faut reconnaître que il faut avoir quand même le cœur pour reconnaître que l'immeuble souffrait quand même avec les pluies que nous avons assistées ces temps-ci dans notre capitale. Il fallait reconnaître que l'immeuble était quand même en souffrance parce que les gens en parlaient depuis un certain temps. Et c'est le lieu d'interpeller une fois encore le ministre de l'urbanisme. C'est vrai que on nous dit au niveau des mairies qu'on obtient le permis de construire et tout. Il est vrai, après l'obtention du permis de construire, Pascal, quel suivi on fait après? Quel suivi on fait après l'obtention, effectivement, de ce permis de construire? C'est vrai, c'est comme les parents. On vient demander la main de votre fille, la fille part en mariage. Il est vrai que vous n'avez pas le droit de mettre votre bouche dans la gestion des affaires de votre fille et de son mari, mais de temps en temps quand même, il faut quand même se renseigner. Est-ce que ça va entre toi et ton mari? Ça, c'est le rôle des parents, de souvent demander entre ses enfants, est-ce que ça va? Cela ne veut pas dire qu'il faut tout le temps chercher à savoir. Mais après l'obtention, effectivement, du permis de construire, ça, c'est le rôle du ministère de l'Urbanisme. Et c'est vrai qu'on a donné le pouvoir aux mairies, mais les mairies, ça ne suffit pas. Je suis heureux que tu aies invité le secrétaire général de vice-président plutôt. Donc, il faudrait qu'on nous dise quel est leur rôle, quelles sont leurs limites entre eux, le ministère de l'Urbanisme et les mairies. Quel suivi ils font par rapport à l'obtention de ce permis. Parce qu'il ne suffit pas seulement de donner le permis aux gens, mais quand même, il faut accompagner, il faut aider les gens. Parce qu'on a vu l'immeuble là, je ne sais pas si vous avez vu l'espace que cet immeuble l'a occupé. Déjà, ce petit espace-là, Pascal, il faut avoir le cœur hein, pour pouvoir construire ce que ce monsieur-là a fait là-bas. Moi, je crois que les responsabilités sont partagées. On peut accuser le monsieur qu'il a mal fait, mais selon les dires, il paraît que la mairie lui avait interdit de continuer les travaux.
Tout à fait.
Voilà, si la mairie a interdit de continuer les travaux, pourquoi il a continué? C'est ça le problème.
Et s'il a continué, comment se fait-il qu'il n'y a pas quand même un après, l'interdiction?
C'est ce que j'ai dit.
C'est-à-dire avec la mairie.
Voilà, c'est pourquoi je parle du suivi qui a été fait dans l'interdiction. Quel est le rôle du ministère de l'Urbanisme? Le rôle également de l'association des architectes et le rôle également de la personne à qui on a interdit de construire. Donc c'est ça, il faut chercher à voir, est-ce qu'entre-temps, les pots de vin ne sont pas passés là-bas? Parce qu'on se connaît. Est-ce que, bon, il n'a pas graissé quelqu'un et puis la personne a dit, non, écoute, il faut continuer. Donc il faut voir ce genre de choses.
Nous revenons dans cette émission Club de la Presse. Toutes nos excuses pour cette interruption momentanée qui est due à la coupure à l'heure du courant. Mais nous avons repris. Nous avons repris Belle. Alors,
donc, Jacques. Oui, je voulais chuter en disant que les responsabilités sont partagées au niveau du ministère de l'Urbanisme, les mairies et également ceux à qui on donne ces permis. Parce qu'il ne faut pas seulement donner et ne pas faire un suivi pour aider effectivement ceux qui cherchent effectivement à construire. Donc je crois qu'il faudrait aujourd'hui que l'État puisse mettre encore, que l'État soit regardant dans ce qui se fait, surtout les grands immeubles qui se construisent un peu partout, parce qu'on a appris qu'il y a également des immeubles qui souffrent encore dans certains quartiers. J'ai lu dans Liberté quelque part, ou bien c'est pas si
c'est correct. Oui, mais là, on va revenir là-dessus.
Donc je crois qu'il faudrait que l'État soit regardant, c'est important.
D'accord. Didier? Oui, mais l'information a donné vraiment de l'émoi, tel que je le disais tout de suite, et de la consternation. On s'est dit, mais quelqu'un qui est à l'étranger, qui construit une maison, à peine il rentre dans cette maison, et finalement, c'est la mort qui s'ensuit. Et je pense quand même que c'est triste, hein?
C'est triste et c'est vraiment dommage. Et on aurait pu l'analyser sous d'autres prismes, si on était dans d'autres cadres. Mais ici, soyons dans la réalité et parlons véritablement de la réalité. Et d'abord, je suis triste que cet événement ait pu avoir lieu. Et c'est normalement, on ne devrait pas penser à cela. D'abord pour paix à son âme, un compatriote qui vit à l'extérieur, censé faire les choses dans les normes par rapport à nous qui sommes au village ici. Et qui, relativement par rapport aux Togolais moyens d'ici, devraient avoir un peu de ressources, beaucoup de connaissances d'un certain nombre de choses, et donc pour dérouler un certain nombre de projets, un projet d'une telle envergure, aurait pu prendre le temps de prendre les papiers nécessaires et les personnes indiquées, ma foi, pour dérouler ce projet. S'il n'a pas eu à le faire ou si on est arrivé à cette étape-là dramatique, ça veut dire qu'il y a eu des manquements dès le départ des travaux. Et depuis le week-end, j'ai eu le temps de discuter avec quelques amis, techniciens, ingénieurs, qui ont dit que généralement, qu'est-ce qui se passe avec ce genre de projet et pourquoi on arrive généralement à ces résultats, même si beaucoup d'immeubles à Lomé présentent les mêmes défauts, les mêmes structures, et ne s'écroule pas parce que peut-être n'ont pas atteint cette dimension-là d'élévation. C'est qu'il dit généralement que les propriétaires de tels projets craignent pour les main-d'œuvre, pour ce qu'il faut payer les techniciens les gens qui devraient venir respecter les travaux. Et donc au début, ils ne disent pas clairement quelles étaient leurs ambitions.
Ça, c'est coûteux de faire cela, c'est ce que vous
mais
me dites.
Mais faire un bâtiment R plus 5 à Lomé, c'est pas donné à n'importe qui, c'est coûteux.
D'accord, le technicien, là, on va lui poser la question.
Oui, je parle sous son contrôle, donc c'est coûteux, c'est pas donné à n'importe qui. Donc, si vous voulez faire un tel projet, ça veut dire que dès le départ des travaux, vous investissez énormément dans ce qu'ils vont appeler fondation, le dimensionnement et un certain nombre de choses. Vous investissez énormément. Mais pour fuir donc les dépenses dès le départ, les propriétaires de tels projets disent généralement à ceux qui sont en charge des travaux que je veux faire quelque chose, je veux faire un RE ou je veux faire un R plus 1. Donc on fait les choses par rapport à ce qu'il a dit. Et c'est chemin faisant qu'il dit je vais ajouter encore. Et c'est là que, puisque dès le départ ce n'était pas prévu, ça, ce projet-là dévie carrément du droit chemin et présente ce danger-là public, et finalement c'est ce qui est arrivé. Et c'est bien dommage que quelqu'un qui est à l'extérieur, qui fait un projet peut-être pour venir y vivre, pour revenir s'installer au Togo, ce projet-là le tue finalement lui-même et tue d'autres personnes à côté. C'est bien dommage qu'on en ait arrivé là et je pense fondamentalement que il faut des fois que nous-mêmes, quand nous menons un certain nombre de projets, que nous soyons honnêtes avec nous-mêmes et que nous savons que des projets de telle envergure peuvent présenter des risques pour nous-mêmes. Et ensuite, ce que je dirais, ça peut-être, ça vaut pour nous tous, que nous ayons un peu des ambitions mesurées. Des ambitions mesurées par rapport à nos moyens et par rapport au secteur dans lequel nous sommes, au secteur dans lequel nous vivons, pour qu'au final, nous n'imaginons pas des choses ou nous ne poursuivons pas des choses que nous n'aurons pas, que nous ne pourrons pas avoir ou les choses dont nous ne pourrons plus finalement nous jouir. Parce que là, actuellement, le monsieur dont on parle, ce projet-là, le projet n'est plus là et lui-même n'est pas non plus là pour jouir et même ses progénitures ne peuvent pas profiter de ce projet. Donc tout ce qu'il a eu à faire, s'expatrier, chercher de l'argent, faire tout cela, toutes ces années, il perd sa vie et il perd tout ça aussi. Sa famille perd tout ça aussi. Finalement, on revient à la case départ et c'est bien dommage. Condoléances à la famille.
D'accord. Gosson, si on en est là, ça veut dire qu'il y a un manquement qui a été observé quelque part, puisqu'on nous dit que déjà la mairie avait interpellé le monsieur, ou du moins ceux qui exécutaient même les travaux sur le permis de construire. Et finalement, aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé.
Mais tu sais, Pascal, je ne sais pas faire dans du sentimentalisme béat. Qu'est-ce que je veux dire par là? Repos aux autres qui sont morts et aux blessés. Quant aux propriétaires, je me dis, excusez-moi le terme, heureusement que c'est lui-même. Si c'était un seul mort, je dirais heureusement que c'est lui-même.
Comment ça, heureusement? Voilà, il y a mort dans cette histoire.
Justement, si tu suis bien l'actualité, la mort se banalise aujourd'hui. Mais ce n'est pas de ça que je veux parler. Quand tu tiens à la vie, tu dois pouvoir comprendre que ce n'est pas pour le roi de plus qu'on demande le permis de construire. Dans le permis, je crois qu'on doit étudier ton plan, les armatures, tout ce que tu vas utiliser pour la construction, pour te sécuriser toi-même. Du moment qu'on ne t'a pas délivré de permis, tu dois t'interroger. Mais dans ce cas-ci, il faut préciser, parce que j'ai eu à approcher les responsables du Golf 7, il faut préciser que le bâtiment a commencé avant l'arrivée de la mairie de la commune actuelle. C'était sous la délégation spéciale que l'homme n'avait déjà pas de permis. Mais il continuait à monter, c'est au niveau du quatrième, selon les propos qu'on m'a rapportés, que le maire, qui passe souvent par là, s'est interrogé. Mais du moment que le propriétaire a outrepassé, il a bouté de côté les injonctions de la mairie.
L'autorité, voilà, déjà de la mairie.
Il faut aller au-delà de la personne du propriétaire pour savoir qui aurait fait des pressions pour que ce bâtiment atteigne ce niveau. Parce que, sans me substituer à l'ingénieur, retenez que l'Ordre national des architectes du Togo a son œil dans la délivrance du permis. Et dans cet ordre, il y a un responsable du ministère de l'urbanisme qui siège. Donc c'est pour vous dire que combien sûr ça va te coûter d'obtenir un permis pour savoir que le bâtiment que tu veux construire répond aux normes et va te préserver toi et ta famille, plutôt que de te cacher derrière quelqu'un. Si les autorités peuvent rechercher celui-là qui fait pression sur le maire ou la mairie au point que ce bâtiment atteigne ce niveau, notre pays aura fait un bond en avant. Parce que un citoyen lambda ne peut pas faire ce que ce propriétaire-là a fait. Une mairie qui t'interdit de continuer les travaux pour défaut de permis. Mais tu as continué sans qu'on ne t'ait convoqué là où on devrait il faut chercher au-delà de cette personne pour connaître la vérité.
D'accord.
Faire aux âmes des autres, mais c'est lui-même qui a voulu que ça, là, ça lui arrive à lui. Malheureusement, qu'il y a eu d'autres qui ont été embobinés, bon, emportés. Désolé pour ceux-là.
Et il y a même un ami hein, de la personne, du propriétaire, un expatrié, qui est décédé aussi dans cette situation.
Pascal, si tu le permets, je crois que ce que Gosson vient de dire, c'est quand même un peu, disons, grave. Parce que, disons, si vraiment il y a une pression sur la mairie, il faudrait que les enquêtes prouvent qu'il y a eu pression. Parce qu'on ne peut pas comprendre, Pascal, qu'on dise à quelqu'un d'arrêter les travaux et que la personne s'entête à continuer les travaux. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, soit on a agressé certains, ou soit, comme il le dit tout à l'heure, il y a une pression. Si effectivement il y a eu pression, que les enquêtes effectivement nous démontrent qu'il y a eu pression et qui a fait pression. Pascal, c'est pas toi qui peux aller faire la pression à la mairie de, je crois que c'est Dikounou.
Monsieur
Dikounou qui est là-bas, pour que voilà, pour que Dikounou puisse arrêter les travaux. Moi, je crois que il faudrait que les enquêtes déterminent qui a fait la pression sur la mairie pour que les travaux la continuent et que ce bâtiment là s'écroule. Donc, je crois que nous sommes en train de déplorer effectivement les victimes, les morts qui sont tombés sous le poids de cette construction. Mais il est important, pour honorer effectivement la mémoire de ceux qui sont morts, il faudrait que l'État diligente effectivement une enquête pour situer les responsabilités. C'est vrai qu'il a avancé toujours déjà une hypothèse pour dire que le monsieur sûrement a été rappelé à l'ordre, mais n'a pas voulu respecter.
Mais Jacques, sur ce point, nous avons appris même que la mairie avait envoyé des techniciens sur les lieux et des ouvriers, c'est-à-dire ceux qui exécutaient les travaux, ont chassé ces membres alors du service technique de la mairie.
C'est ce que j'ai dit. Si c'est comme ça, Pascal, c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que ce n'est pas toi qui peux donner ce ordre. Pour qu'on puisse renvoyer, ni peut-être le secrétaire général pour le faire. Certainement que c'est quelqu'un qui a la force de faire la pression sur les gens. C'est pourquoi il est important aujourd'hui que les enquêtes puissent déterminer qui a fait pression.
D'accord. Okay, mais nous allons...
Oui, une minute là-dessus, c'est aujourd'hui, il faut que là, on est en face d'une réalité... C'est que des gens sont morts, des Togolais sont morts et qu'il y a encore des blessés actuellement à l'hôpital et qui souffrent dans leur corps. Donc si quelqu'un a mis pression et des gens peuvent avoir des idées sur un certain nombre de personnes, si des gens ont de la pression à mettre dans ce pays, ils n'ont qu'à mettre la pression sur les terroristes ou quelque chose d'autre. Plutôt que de mettre la pression sur les services d'État pour qu'on poursuive dans le faux et que ce faux aboutisse finalement à mort d'homme. Et donc ça là, si je ne sais pas complicité de quoi on peut qualifier ça au niveau de la justice, mais il faut qu'on situe les responsabilités et les noms qui sont cités ou qui sont en train d'être cités ou qui seront cités, que ces gens-là, qui qu'ils soient, quels soient les postes, quels que soient les postes qu'ils occupent, pour une fois que l'impunité n'est plus droit de citer dans ce dossier-là, pour décourager les éventuels candidats à de tels projets.
D'accord. Nous allons donner maintenant la parole aux techniciens. Maurice, rebonjour.
Bonjour, Pascal. Oui.
Alors, c'est vrai que je l'ai fait sciemment quand j'ai laissé alors les confrères s'exprimer sur le sujet pour que, du moins, ça on ait aussi un aperçu alors de ce qui s'est réellement passé. Mais je sais aussi que, à votre niveau, c'est-à-dire au niveau de l'ONITS, vous avez envoyé le jour du drame. Vous avez envoyé une équipe alors sur le terrain. Alors, qu'est-ce que vous avez constaté?
Nous avons constaté, je ne vais pas répéter, je l'ai déjà dit ce matin sur une autre chaîne, je pense que les gens ont écouté. C'est vrai que c'est triste, ça fait de l'émoi. Il y a plusieurs années déjà que nous alertions. Ce que nous sommes en train de faire, c'est dangereux. Il y a des drames qui vont peut-être arriver. Et depuis plusieurs années aussi, dans les pays voisins, je vais parler du Ghana ce matin et la Côte d'Ivoire, souvent on en reçoit comme ça, c'est en français et c'est les journalistes généralement qui diffusent ça, effondrement d'immeubles. Et nous on disait et à des voix même autorisées, attention, il y a des choses dangereuses dans notre pays, il faudrait qu'on prenne les mesures. Aujourd'hui on a un drame qui est survenue. Et donc, on a été interpellé comme d'habitude par vos confrères et on s'est rendu sur les lieux. L'immeuble nous avait été déjà signalé dans le temps. Et je peux vous garantir qu'il y a l'Ordre national des architectes qui avait même écrit à la mairie. Et cette mairie-là, comme vous le dites, vous avez toutes les informations. La mairie avait sous l'injonction, je ne vais pas dire l'injonction, en fait, il y a une commission qui avait été mise en place par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Et donc, il y a eu une équipe qui s'est rendue sur les lieux, qui a fait un état des lieux et qui a donc interdit l'accès du bâtiment. Et l'équipe des sapeurs-pompiers qui était là même a demandé qu'il y ait un périmètre de sécurité qui soit installé autour de l'immeuble. On parle de mai 2023. Et donc, quand on constate en 2024, en octobre 2024, que cet immeuble-là, que les gens ont tout passé, toutes ces interdictions, et semble-t-il qu'ils étaient en train de faire des travaux de correction à l'intérieur, en saison des pluies. Donc, il y a plusieurs éléments qui se sont accumulés et nous avons pu constater le sol sur lequel le bâtiment est construit était déjà problématique. Et donc, quand on passe à ça, qu'on arrive au cinquième niveau, et on se demande comment le bâtiment a fait pour tenir autant jusqu'à ce qu'il n'y ait, ce drame.
Alors, quand vous dites que le sol était problématique, est-ce que ça veut dire que le sol ne peut pas tenir ces étages?
Le sol que nous avons vu, et il est problématique. C'est-à-dire, il peut tenir ces étages-là si il y a la fondation qui a été faite en conséquence. Est-ce qu'il y a une étude? Il n'y a pas eu d'étude, visiblement. Parce que s'il y a une étude, je ne sais pas qui aurait pu faire cette étude-là, puis on laisse le monsieur continuer. Il n'y a pas eu toutes ces choses-là. Ce qui est dommage, parce que je ne sais pas quelle inconscience peut pousser à aller jusqu'à ce niveau-là. Nous avons une posture. Nous l'avons déjà dit, c'est arrivé, maintenant on a vu. Ce n'est pas à côté, c'est chez nous, c'est arrivé. Maintenant, ce qu'il faut faire, et il faut le faire rapidement, il y a des immeubles qui sont encore dans la situation. Il faut qu'on les signale, qu'on les répertorie. Ce qui doit être fait, c'est-à-dire sécuriser au moins les alentours. Vous l'avez dit, c'est sur un demi-lot là-bas. Il y a les voisins. Moi, quand je suis arrivé, j'ai dit, grâce à Dieu, c'est-à-dire qu'il y a les biens des voisins. Vous l'avez dit lui-même et puis tout. Généralement, ce n'est pas seulement ça. Lui s'entête qu'il fasse son truc, mais qu'il ne mette pas la vie des autres et les biens des autres en danger. Ce n'est pas normal. Donc, ces immeubles-là qui existent, il faut le faire rapidement. Je pense pour qu'on ne nous dise pas, on est en saison des pluies, on ne sait pas ce qui va se passer et que d'autres, même qui nous écoutent, vont continuer dans leur entêtement et qu'il y ait d'autres drames qui surviennent et qu'on vienne se retrouver pour pleurer. Première chose. Deuxième chose, au niveau de l'ordre, nous allons continuer à faire la sensibilisation que nous faisons. Et les prérogatives qui nous ont été données, nous allons continuer à les exercer, mais maintenant de manière assez ferme. Parce qu'on a un fait qui nous donne aujourd'hui toute la latitude pour aller vers les mesures qui doivent être prises. Pour que, c'est ce que j'ai dit. Quelqu'un qui viole le feu tricolore, on l'arrête, on le sanctionne. Parce que quoi? Il va mettre la vie d'autres personnes en danger. Mais quelqu'un qui dit qu'il a son argent, il va faire, vous m'excusez, de mettre la vie d'autres personnes et en danger leur bien en danger, qu'on le laisse faire, ce n'est pas intéressant. Donc, nous allons faire notre part, nous allons jouer notre partition, mais nous espérons que, je pense que les autorités ont pris la mesure de la chose et qu'on va aller rapidement vers ça. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que vous ne pouvez pas imaginer ce qui revient. Commercialement, des gens ont de l'argent. Ce n'est pas qu'ils ne peuvent pas se permettre un ingénieur. Un ingénieur, on dit, les gens te disent que l'ingénieur, il coûte cher. Il coûte quoi? Mais quand on cherche moins cher, on voit ce qui est en train d'arriver. Le gars, le bâtiment, un seul niveau, ce qui est en train d'être fait là. Et je pense qu'il y a plusieurs centaines de millions là-bas qui sont partis et comme un château de cartes. On voit le béton s'est effrité. C'est tout l'immeuble qui est tombé. Le béton s'est effrité. Et donc, quand vous regardez visiblement, vous voyez même le sable qui a été utilisé. Vous cherchez des graviers, vous ne trouvez pas. Il n'y a pas d'armature. Les poteaux circulaires qui étaient... Pardon. Il faut que les gens prennent conscience des dangers dans lesquels ils se mettent eux-mêmes et qu'ils mettent les autres. Je vais aller plus loin. On a des bâtiments commerciaux dans ce pays où on évite d'aller. Certains évitent d'aller. Parce que la manière dont c'est fait, et on ne sait pas. Le jour où le monde va se retrouver à l'intérieur, on ne sait pas ce qui peut arriver. Nous allons faire notre part pour que ce genre de situation, on puisse les éviter à l'avenir. C'est ce que je peux dire.
D'accord. Oui, Maurice, c'est vrai que nous allons mettre aussi le lien rapidement avec le bâtiment de la Lonato. Et tout près de nous, à Niekonakwe. Et c'est vrai que ce bâtiment a été déclaré, même d'ailleurs, un bâtiment à risque. Et il y a même toute une couverture au-dessus même du bâtiment. Mais la question est de savoir, et à quand la démolition même d'ailleurs de ce bâtiment?
Oui, sur le bâtiment de la Lonato, je pense qu'il faut, il faut garder proportion. Nous sommes dans un pays qui a une histoire et qui est passée, qui est récente et qui va avoir une histoire qui va se prolonger. Il y a beaucoup de choses qui se sont dites. Et pour ce qui est de manière officielle au niveau de l'Ordre national des ingénieurs du Togo, nous attendons les éléments probants pour apprécier. C'est ce que je peux dire. Nous-mêmes, nous avons été dans le bâtiment et on a épelé sur d'un certain nombre de choses. Maintenant, au-delà de ce qui se raconte, on voudrait quand même, s'il faut donner une position officielle, avoir tous les éléments pour apprécier.
D'accord. Gosson?
Oui. Au sujet du bâtiment de la Lonato, je me vois obligé de placer un mot.
Allez-y.
D'abord, au temps de l'appel d'offres, il y avait eu été mis de côté pour certaines raisons. Et pendant ce temps, celui à qui ça, le marché devait revenir a revu à la hausse son offre. Mais finalement, c'est à lui qu'on a attribué le marché. Je vais parler de l'entreprise Centro. Mais à la fin, ils ont été aux alentours, dans les maisons avoisinantes. Et qu'est-ce qu'on avait constaté? Les puits de ces maisons se vidaient. En ce sens que, avant la construction du bâtiment, on a pompé beaucoup d'eau dans le sol pour, je dirais, assécher le sous-bas, bon, le bas. Donc, c'est, pendant ce temps, la TDE avait même installé gratuitement une pompe pour secourir les maisons avoisinantes. Donc, tout ceci pour dire que le sol de la Lonato là-bas était un sol à problème. Puisque nous avons écrit là-dessus.
Donc, c'est un sol à problématique aussi.
Mais je ne veux pas dire que ça aurait entraîné des problèmes sur le bâtiment. Je ne veux pas faire le lien. Mais initialement, c'est ce que nous avons constaté. Et personne ne nous fera dire le contraire.
Oui, mais disiez, moi, la question est de savoir, est-ce que déjà quand le bâtiment est un bâtiment, est déclaré bâtiment à risque, ça veut dire que du jour au lendemain, ça pourrait également s'écrouler. Qu'est-ce qu'on attend concrètement pour aussi démolir cela?
Non, quand j'ai écouté M. Marus dire que notre pays a une histoire et tout ça, moi, vous savez, tu sais que moi, sur des sujets de ce genre, moi je dis ce que je pense.
Vous êtes un esprit libre alors.
Oui, je dis ce que je pense. On ne peut pas continuer à avoir des spécificités au Togo. On ne peut pas continuer à avoir des histoires et avoir des Togolais à part et des Togolais entièrement à part et des Togolais à part entière. Si là on est en train de parler d'un cas d'espèce qui a coûté la vie à des Togolais, à des gens, avec des blessés, et Dieu merci, la seule prière que tous les Togolais faisaient le jour-là, c'était que les gens qui ont loué dans des maisons environnantes ne soient pas touchés, ne soient pas parmi les victimes. C'était cette grande prière-là que tout le monde faisait, et à l'heure du bilan, on a tous dit, ouf, on n'a pas eu des dizaines de morts. Si autour du bâtiment de la Lonato, comme Gosson le dit, on a des maisons, on a des commerces, on a des Togolais qui s'installent là-bas, qui circulent même. Il y a le boulevard là, du 13 janvier, allô, c'est ça? Qui passe là-bas, finalement le boulevard circulaire, qui passe là-bas. Et le bâtiment est déclaré à risque, sinon le bâtiment a été vidé des occupants. Donc à partir de ce moment-là, en attendant qu'on ne cherche qui a fait quoi ou pas, c'est qu'on puisse donner officiellement un ordre de ce que le bâtiment soit démoli promptement, s'il faut, ils veulent reprendre les travaux, qu'ils les reprennent, mais que ce bâtiment ne continue pas d'être là-bas, avec cette hauteur-là, qui met la vie de beaucoup de Togolais en danger, qu'on soit Lonato, qu'on soit qui on est derrière, mais dès lors qu'il y a un danger pour la vie des Togolais et des étrangers éventuellement, je pense fondamentalement que, avant que nous ne parlons des spécificités, de qui est derrière et tout, il faut qu'on préserve d'abord la vie d'un grand nombre de personnes en actant officiellement la démolition de ce bâtiment.
Jacques, c'est vrai que pour ce qui concerne l'effondrement du bâtiment ou de l'immeuble alors de Sigby, enfin de Sabado, moi c'est vrai, la question que je me pose concernant d'abord l'autorité qui a donné l'ordre, mais finalement ça n'a pas été respecté, et aussi, est-ce qu'il n'y a pas un problème de citoyenneté, surtout chez le propriétaire?
Oui, je crois que je voudrais rebondir un peu sur l'immeuble de la Lunato avant de revenir sur votre question. Il est vrai que ce que Marius a dit tout à l'heure, nous tous nous connaissons effectivement notre pays pour son passé, pour le présent et également pour le futur. C'est vrai que personne ne peut déterminer le futur, mais on sait quand même un peu ce qui se passe. C'est pourquoi il disait tout à l'heure que toute proportion gardée, il ne peut pas pour le moment se prononcer s'il faut démolir ou bien ne pas démolir. Je crois que lui est mieux placé aujourd'hui pour nous dire ce qu'il faut faire effectivement de ce bâtiment. Mais déjà, le fait qu'ils sont conscients que les gens ont alerté et s'il y avait un problème, je ne pense pas qu'ils vont se taire pour l'histoire bien sûr, parce que il est ici, il est en train de parler sur une radio et c'est certainement que les gens pourront garder les enregistrements demain. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Les enregistrements seront là pour demain. S'il s'avérait qu'ils ont fermé les yeux parce que le bâtiment avait des problèmes, ils ont fermé les yeux. L'histoire tiendra qu'ils ont fermé effectivement les yeux et ils ont laissé faire et que le bâtiment a créé des dégâts. L'autre aspect, ce que moi je voulais par exemple lui demander, c'est de tout faire. Il a dit tout à l'heure que, prenant par exemple le bâtiment de Segbeno, Sabado, oui. Voilà, qui a eu des problèmes, il faudrait aujourd'hui que l'ordre aille même plus loin, en essayant d'étudier les sols au Togo, pour voir est-ce que certains sols permettent de construire par exemple les R+1, R+5, pour aider effectivement la population. Parce que, quand vous prenez dans certains pays, vous ne pouvez pas, par exemple, bâtir certains immeubles n'importe où, n'importe comment. Donc, il faudrait que l'ordre fasse effectivement cette étude-là, sortir effectivement les terrains ou bien les terres où les compatriotes pourront bâtir des immeubles et que les immeubles-là ne puissent pas créer trop de problèmes demain. Vous prenez, par exemple, la Lunato, vous voyez qu'il y a un grand hôtel également.
Tout à fait.
Qui fait face effectivement à ce bâtiment-là. Déjà, quand vous passez là-bas, vous avez peur. J'ai vu des compatriotes, souvent, quand le feu est rouge là-bas, ils ne veulent pas s'arrêter. Et les policiers ont souvent des problèmes là-bas. Les policiers ont des problèmes. Vous allez voir les compatriotes courir. Moi, un jour, j'ai demandé à un monsieur, j'ai dit, mon ami, tu as quel problème? Il dit, ah, mon ami, on ne sait jamais. Hein, le bâtiment peut se couler sur nous. Et c'est à cause de ça que tu brûles le feu rouge. Il dit, non, il préfère payer l'amende du policier que de mourir. Ouais, donc je crois qu'il faudrait, l'esprit est en train de hanter les Togolais, donc il faudrait que l'ordre fasse tout rapidement pour citer l'opinion. Parlant effectivement de ce bâtiment dont vous venez de parler tout à l'heure, on a dit, Godson l'a ressorti, Didier également l'a ressorti, et il paraît que il y a eu des pressions au niveau effectivement du maire de M. Dikounou pour laisser les travaux continuer. Donc il faudrait aujourd'hui qu'on ressorte effectivement, que l'enquête ressorte. Qui a fait ça? Qui a donné l'ordre pour que les travaux continuent? Alors que la mairie a donné l'injonction que les travaux ne continuent pas. Donc à ce genre de chiffres, il faut que cela cesse dans notre pays. Il ne faudrait pas qu'on donne les ordres et que des autres soient encore en sous-marin pour donner d'autres injonctions et des contre. Et puis ça crée des problèmes. Donc je crois que c'est des choses comme ça que l'ordre également doit corriger. Si par exemple l'ordre donne son OK qu'un bâtiment continue, que le bâtiment continue. Du moment où l'ordre donne par exemple que le bâtiment ne continue pas, que tu sois président, que tu sois premier ministre ou que tu sois quoi, et président de l'Assemblée nationale, il ne faut pas que quelqu'un reste dans son bureau appelé pour dire que les travaux continuent. Ça va créer vraiment des dommages. Dieu merci, même s'il y a eu mort d'homme la fois passée à ce niveau, je vous dis que pour ceux qui connaissent ce bâtiment, vous avez vu les maisons. Dieu a aimé tellement ce pays, a aimé également ses voisins-là, les riverains qui étaient là-bas. Sinon, ça allait créer plus de morts et de dégâts. Donc, plaise à Dieu que lorsque, par exemple, on donne des injonctions, que tu sois haut placé ou quoi, n'interférez pas effectivement dans les décisions.
D'accord, Marius, c'est vrai que vous êtes déjà avec les propos de Jacques, vous êtes interpellé. J'ai discuté avec un ami ce matin qui me dit, Pascal, vous savez, si on doit vraiment faire les études nécessaires ou appropriées pour des immeubles, même d'ailleurs à Lomé, alors peut-être que beaucoup d'immeubles ne seront plus là. C'est vrai?
Oui, ça peut être vrai. Parce que la réalité, c'est quoi? Comme il le dit, nous sommes des scientifiques. On est d'accord. Il y a des constructions dans la mer. C'est ce qui se passe dans les Émirats et tout. C'est possible. Il faut en avoir aussi les moyens. Sinon, c'est deux choses. Maintenant, en fonction de nos moyens, qu'est-ce qui est possible d'être fait avec le sol que nous avons? Et donc, par rapport aux ambitions, quelqu'un a parlé de réduire ses ambitions. L'ingénieur va t'amener des fois à réduire tes ambitions ou à changer de projet parce que scientifiquement, la nature, elle nous appartient. On va voir comment elle se comporte pour nous y adapter. Il y a des choses qui peuvent être faites. Non, la réalité est qu'il y a une antériorité que nous sommes obligés aujourd'hui d'endosser. C'est pour cela que je dis, faisons rapidement l'état des lieux. Pour dire ça, ce bâtiment, quand vous parlez du bâtiment de la Lunato, peut-être ça devrait en faire partie. Ce bâtiment, vu les conditions dans lesquelles les sols évoluent également en fonction de ce qu'il y a tout autour. Donc, les contraintes qui sont là aujourd'hui, que les gens fassent les études qui sont nécessaires, les contraintes qui sont là aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est possible de faire? Est-ce qu'on peut encore soutenir ce bâtiment? C'est une option. Combien ça va? Qu'est-ce que ça va coûter? Est-ce qu'on ne peut pas le soutenir? Il faut le démolir. Et à quel niveau il faut le démolir? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est une autre option. Ça aussi, ça a un coût. La démolition a un coût. Et donc, c'est sur la base de ces deux éléments qu'on peut prendre une décision. La décision ne revient pas à l'ingénieur. Il va toujours conseiller. Mmh. Il va dire ce qu'il faut scientifiquement, les éléments qu'il a. Des fois, on peut faire même des contre-expertises. Comme on dit, bon, on ne nous croit pas toujours, même si nous faisons la même science que nos confrères de l'Occident. On peut le faire pour arriver à une conclusion qui permet de prendre une décision juste. Il y a beaucoup de bâtiments aujourd'hui qui sont problématiques.
D'accord, beaucoup de bâtiments qui sont problématiques. Alors, absolument. Déjà, quand on prend la construction, quelles sont les dispositions, surtout les dispositions de la loi pour arriver à construire un bâtiment?
Aujourd'hui, il y a un cadre réglementaire, comme je disais ce matin, qui est louable. Ça, c'est une chose. Son applicabilité, reste à regarder pour au fil du temps l'améliorer, avoir les retours donc de d'expérience pour pouvoir donc faire de mieux en mieux. Toute construction a besoin d'un permis de construire aujourd'hui au Togo. Il y a des exemptions pour certains éléments. À titre d'exemple, vous avez déjà eu un premier permis, vous avez construit, peut-être que vous voulez faire des aménagements, un certain nombre de choses, on ne va pas vous demander un deuxième permis. Ou vous voulez juste installer un pylône, quelque chose comme ça, on ne va pas demander permis de construire. Il y a quelques éléments. Maintenant, quand vous avez le permis de construire, déjà à ce niveau, il y a une problématique qui est là aujourd'hui. Qui monte le dossier du permis de construire? Parce que lorsque vous avez, c'est ce que nous avons constaté sur le terrain, lorsque vous avez le permis de construire, que l'autorité a autorisé que vous puissiez construire, après, il y a dans la loi toujours une commission d'inspection des travaux de construction qui intervient. Vous vérifiez la conformité du permis pour lequel on a déjà signé. Si le permis est faux, on va vérifier si ce qu'on est en train d'exécuter, c'est conforme au faux. Je prends un exemple, et on l'a déjà eu, où on a un immeuble dans une zone commerciale qui est en train d'être construite, où le gars, au lieu, par rapport à la fréquentation qu'il y aurait dans ce lieu, au lieu d'avoir des couloirs qui fassent 1,20 m, il avait des couloirs qui font 0,90, c'est-à-dire 90 cm. Un bâtiment qui va recevoir du public. Mais il a eu un permis là-dessus. Cela veut dire qu'au niveau de l'étude, il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé par rapport aux éléments qu'il y avait dans le dossier. Nous interpellons déjà à ce niveau-là où il faut des gens et qui aient la capacité de pouvoir faire correctement les études de ces dossiers-là. Le bâtiment était en construction en bord de mer. Je ne vais pas donner trop d'indications. Mais quand on y va, on voit le niveau auquel les gens sont allés pour la fondation. L'ingénieur qui allait dire ne signe pas. Ça a fait des problèmes et puis il a fallu expliquer. Bon, après les choses ont essayé de prendre une autre tournure. Il y a eu des correctifs qui ont été apportés. C'est dire que le dispositif qui est là aujourd'hui, qui demande à ce qu'on ait un permis de construire, il faut qu'on le renforce dans l'utilisation des experts spécialistes qui sont agréés pour le faire. La deuxième chose, quand on quitte ce niveau-là, et la réglementation le prévoit, c'est qu'à partir du moment où la personne a eu le permis, la personne construit, la personne ne doit pas habiter sans avoir eu un certificat de conformité qui lui donne l'autorisation d'exploiter, d'habiter ou d'exploiter. Et donc, suivant maintenant les risques, si je conduis deux chambres salon, le risque est quand même un peu faible, suivant les zones également. Donc, il y a une catégorisation des risques qui oblige à faire peut-être une, deux, à certaines étapes aussi de la construction, à faire les inspections. Ça, c'est le dispositif légal qui est là. Vous avez parlé des mairies. Parce qu'au départ, la commission d'inspection et travaux de construction a été mise en place par le ministère en charge de l'urbanisme. Et donc, l'Ordre national des ingénieurs est dedans, l'ONAT, l'Ordre des architectes est dedans, il y a les urbanistes, il y a la DST, il y a le corps des sapeurs-pompiers. Et de 2018, je pense, jusqu'à... Ça continue d'ailleurs. Nous avons fait et nous continuons à faire un travail bénévole. Cela veut dire que chaque semaine, des fois, plusieurs fois dans le mois, on envoie des ingénieurs qui vont et faire des inspections et qui délivrent donc des avis et qui ne sont pas pris en charge. Nous continuons à le faire, nous allons continuer. Et ce que nous avons toujours insisté que ça se fasse, c'est que cette commission-là puisse, dans les mairies, puisque aujourd'hui avec la décentralisation, ce sont les mairies qui sont chargées de ça, que cette commission-là se duplique dans les mairies. Il faut qu'on le fasse. Mais pas se dupliquer n'importe comment. Il faut déjà former le personnel des mairies en un certain nombre d'aspects. Mais que dans les mairies, dans chaque mairie, si possible, qu'on ait un ingénieur agréé, au-delà des architectes. Les architectes ont le travail qu'ils font. Mais qu'on ait un ingénieur agréé et qui travaille sous le code de déontologie que le gouvernement a approuvé, avec tous les aspects d'éthique et de responsabilité qui est lié à sa fonction. Maintenant, et c'est là où je mets du bémol, les mairies n'ont pas encore, parce que c'est pour ça que je dis, nous connaissons notre pays, on connaît son histoire et un peu, les mairies n'ont pas encore la capacité, elles toutes, de supporter ce genre de charge. L'Ordre a mis en place un dispositif aujourd'hui pour que les mairies, on va regarder dans les jours et les semaines à venir, si on peut regrouper les dossiers et que nous puissions apporter notre appui d'institution de l'État à ces mairies-là, pour que dans l'instruction des dossiers de permis de construire, le suivi après de ce qui est de ce qui est fait, ça puisse bien se passer.
D'accord. Gossam, c'est vrai que vous êtes revenu sur un autre cas. Hein, après le cas alors de Sabado, vous écrivez dans le journal Liberté ce matin, effondrement mortel d'immeubles et apathie des autorités. Après CB, je pense que c'est Sabado que vous voulez écrire, c'est un bâtiment à l'aspect alarmant à Avedi Télésou.
Oui. Moins d'un huitième de l'eau.
Ah bon?
J'étais à la devanture de ce bâtiment en retenant mon souffle. J'ai fait mesurer. La devanture fait 6 mètres et le côté fait moins de 8 mètres. Quand vous faites l'addition, la multiplication, vous retrouvez avec une surface très inférieure au huitième de l'eau. Et c'est sur ça que, retenez bien, un architecte du nom de Ouro Bawiné Alfani a érigé ce danger. Je dis des dangers parce que l'expression aspect alarmant ne vient pas de nous. Chacun connaît qui est Agbenyegan Aboka, ce maire destructeur d'immeubles. Mais si cet immeuble continue de résister dans sa commune, allez savoir le travail que le maire a fait pour que une décision ultime ne soit pas prise à l'encontre de ce bâtiment. Et effectivement, l'ONAT, avec à sa tête dans le temps, le monsieur
Farah, Raymond, ancien président, oui.
Il y a eu énormément d'échanges de courriers. Après Farah, c'est le ministre de l'administration territoriale, Boukessi dans le temps, qui a été saisi. Mieux, le maire s'est adressé au parquet. Le procureur a requis un expert pour étudier le bâtiment. Nous avons le nom de l'expert. Mais à ce jour, ça date de 2021. À ce jour, aucun rapport n'a été déposé sur la table du parquet. après le départ de Paul Odi, c'est le tour de M. Mawama, à qui le maire s'est aussi adressé. Apparemment, il n'y a pas eu de retour. Et finalement, ça je le dis à qui veut l'entendre, le maire, si il dégage sa responsabilité, si dommage il y aura, il y a demain.
Puisqu'il a fait sa part.
Il a fait sa part. Mais vous allez sur cette rue, vous avez peur. Parce que des trois côtés, c'est que des habitations. Et retenez-vous bien que dans l'une des habitations, c'est le chef du village de Avedi Télésou qui habite là-bas. Mais qui pour contraindre Ourobaouinei Alfani de faire ce qu'il faut? À défaut, il revient à l'actuel ministre de la Justice en qui nous avons vraiment confiance parce qu'il a pris déjà des dispositions contre les démarcheurs.
Vous voulez parler du ministre Nam Tougli?
Il lui revient puisque le parquet dépend de la hiérarchie. La hiérarchie, c'est le ministre de tout faire pour que très rapidement une décision soit prise contre cet immeuble. Autrement, je vous le redis, Aboka ne sera pas tenu responsable si dégâts il y a demain.
Oui, mais Didier, dans cette histoire, hein, ou du moins c'est dans cette situation, on voit quand même que il y a peut-être une autre mère qui est plus puissante alors que la mère de l'autorité est municipale.
Oui, c'est dire que au Togo, on a d'autres forces au-delà des forces de la loi, des forces de l'État. C'est ce que je comprends.
Mais comme ça ne crée pas l'État de droit.
Non, ça crée un État de désordre. Un État de désordre et une république, comme quelqu'un dira, bananière. Et ça ne vaut pas. Je veux croire que nous sommes dans un État et je veux croire que le Togo est doté des règles et des lois, ce qu'on dit état de droit. Si on est dans un état de droit et que des individus se lèvent, prennent des décisions ou lancent des projets qui ne respectent pas les règles et que une autorité municipale prenne ses responsabilités au regard des risques potentiels et réels que présentent ces genres de projets et que saisit des autorités, des ministres, de la justice in fine et que aucune décision ne soit prise parce que des gens exercent des pressions ou des gens appartiendraient à des groupes qui sont plus puissants visiblement que l'État et empêchent l'État de prendre ses responsabilités et faire ce qu'il faut pendant que la vie d'autres Togolais est en danger et j'imagine les gens, y compris le chef de Télésou. Quand ils se réveillent le matin et qu'ils sortent de là, ils doivent pouvoir se dire ouf. Mais quand ils reviennent, ça doit être la mort dans l'âme qu'ils dorment le soir. Et on va laisser cela continuer jusqu'à quand? Alors que nous sommes dans un pays qui se respecte, un état de droit qui a tous les droits, les règles qu'on doit respecter. Au regard de tout ce que décrit M. Marus là, je crois qu'il faut naturellement que, comme on dit, on mette fin à l'impunité et que des gens qui croient être plus puissants et qui exercent des pressions et qui empêchent l'État de fonctionner, que ces gens-là, on puisse les mettre devant leurs responsabilités au regard de ce qui s'est passé à Sabado.
Jacques, on a l'impression qu'on a plutôt des hommes forts au lieu d'avoir des institutions fortes.
Je crois que si vous avez suivi le développement de M. Marius, il n'y a plus rien à dire. Le Togo a un passé. Comprenez? Un passé récent. Et on peut parler d'un passé d'aujourd'hui. Comme je l'ai dit, on ne peut pas parler d'un passé futur ou bien d'un futur proche. Mais c'est un passé. C'est-à-dire que vous prenez des gens, chacun est chef dans son quartier, chacun est chef dans sa maison. Quelqu'un qui a dit, s'est levé un matin, il dit non, il n'y aura pas de manifestation dans leur quartier. Parce que lui n'est pas d'accord. Voilà, c'est un individu qui a dit ça. Hein. C'est un individu qui est au-dessus de la Constitution. On ne dit rien. L'immeuble dont parlait tout à l'heure le confrère Godson, jusqu'à ce que Aboka, qu'on connaît, Aboka qui prend souvent les tracteurs, les bulldozers, et qu'il va y démolir. Si Abuka n'a pas pu démolir ce bâtiment, allez-y comprendre. Et c'est en ça, vous voyez, on rend faible souvent nos autorités. Si c'était toi, Abuka allait démolir ton bâtiment facilement. Mais comme c'est quelqu'un d'autre, vous avez vu, il n'est pas allé là-bas. Dites-moi maintenant, quel respect vous voulez, quelle autorité. Oui, mais il a essayé, mais il pouvait le faire. Parce que, dites-moi maintenant, quel respect vous voulez que les gens puissent avoir en Abuka lorsqu'ils passent dans le quartier. On dira non, c'est sur nous. Que tu voilà, c'est sur les petits. Mais finalement, tu as trouvé Jambri. Va maintenant, on va voir. Ouais, donc c'est ça. Donc il faudrait aujourd'hui qu'on donne effectivement le respect. Lorsque vous nommez des gens, donnez-leur la latitude, l'autorité de pouvoir gérer. Je me rappelle dans un quartier Pascal. Vous savez, un matin, un monsieur s'est levé, il a appelé le coupe-coupe. Il a écrit sur les murs que c'est terrain litigieux, que c'est le terrain de son papa. Arrivé sur un mur, on lui a dit, je ne voulais pas donner le nom de l'autorité. On a dit que c'est le mur de l'autorité. Vous savez, il a dépassé le mur, là, il n'a pas écrit. Il n'a pas écrit sur ce mur-là, terrain litigieux. Donc c'est pour vous dire quelque part aujourd'hui, si vous donnez la force aux gens, laissez-leur exercer leur autorité. Mais si vous foulez leur autorité par terre, ça ne va pas marcher. Le nom que Godson a donné, le monsieur, j'ai tapé Google tout à l'heure, j'ai vu qu'il est architecte. J'ai retrouvé son nom. Mais dites-moi, quelle place il occupe dans l'organigramme de notre pays? Il est qui? Il est qu'un architecte.
Au-dessus de l'État.
Donc, ouais, c'est ça.
Marie, dans ce cas précis, le cas que nous a décrit tout de suite notre confrère Godson, qu'est-ce qu'on doit faire?
J'aurai de la difficulté à vous dire ce qu'il faut faire. Absolument, j'aurai de la difficulté à vous dire. Parce que, oui, voilà, c'est ça. On ne va pas aller à ce niveau. Parce que nous sommes dans un rôle et qui est un rôle de technicien, qui est un rôle de professionnel. Nous allons le jouer. Comme quand je suivais le développement, je pense que, comme il a dit le maire, il y a des procédures légales. Il a suivi des étapes. Bon, maintenant, après, on arrive à un niveau où ça coince. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revenir prier que, comme je dis, prier que ça ne caille pas. Parce que après, si ça caille, c'est comme dans le cas qui a caillé, là. Mmh. Il y a des choses, nous, on ne savait pas. Mmh. Voilà. Les gens passent, ils disent ça, là, jusqu'au jour où ça a caillé. Vous avez parlé, il y a peut-être des pressions, des choses derrière. Et non, c'est-à-dire que la nature, pour nous qui sommes humains, on ne peut pas aller contre. On s'adapte. Et donc, c'est les éléments sur lesquels on peut travailler pour avancer. Ce que moi, je vais dire, surtout par rapport à ces cas-là, et je ne sais pas, si on a parlé d'architecte, je pense qu'il est agréé par l'ONAC, voilà. Mmh. Donc, il y a un cadre, puisque les présidents de l'OS sont intervenus, ils connaissent les procédures, ils savent ce qu'il faut faire. Il y a eu des expertises. Je ne peux pas dire que c'est les journalistes qui ont raison ou que c'est l'autre qui a tort à partir du moment où on n'a pas apprécié. Mais une chose que je peux dire, c'est que lorsque vous prenez dans une construction, il y a différents spécialistes qui vont intervenir. Depuis la zone dans laquelle on veut construire, s'assurer qu'elle est constructible, l'urbanisme. Après, s'assurer que la zone, le plan qu'on a s'inscrit dans un plan cadastral qui est général, qui est national, approuvé par le temps, pour que demain on ne vienne pas dire qu'il y avait une route qui passait ici, ainsi de suite, les géomètres vont intervenir. Le permis de construire arrive et dans la réglementation que nous avons, le dossier de demande de permis de construire, c'est un architecte qui l'introduit dans le système. Donc, il regroupe différents éléments. Il va faire un plan architectural. Il y a un plan qui est d'exécution, qui est plus technique, qui doit être fait par un ingénieur agréé. Et donc, l'ensemble, suivant donc les catégories de risques et dans lesquelles on va être introduit, on va donner le permis. Et lorsqu'on donne, avant de donner le permis, le plan dont je parlais, à l'étape où on fait la demande de permis, ce plan-là est encore sommaire. L'ingénieur fait un certain travail qui est sommaire pour qu'on puisse apprécier. Quand on a le permis, il va avoir, parce que ça peut prendre aussi du temps, entre le moment où on a fait la demande et ça sort et c'est sorti, il y a des évolutions certainement. Donc on va faire un plan maintenant d'exécution détaillé. Et ça, c'est un ingénieur qui doit le faire. Il va revoir qu'est-ce qu'on a, on avait dimensionné comme fond. Il vérifie un certain nombre de choses. Ça peut changer par rapport à ce qui avait été donné. Et ça aussi, ça doit être justifié. Parce que j'en profite. Quand on finit un projet complètement, il y a toujours ce qu'on appelle les plans de recollement qu'on vient faire parce qu'en temps, il y a eu des modifications, on s'est adapté à ça. Mais on finit avec un dossier de recollement. Donc, si cette étape-là qui est fondamentale, tu dis, la structure du bâtiment, là où ça doit tenir, pour que l'immeuble ou le bâtiment puisse avoir la solidité, la stabilité qui est nécessaire. Parce que la solidité, c'est une chose, la stabilité aussi, c'est une autre chose. Et donc, que ça puisse le faire, on a biaisé ça. On a pris des raccourcis, il va avoir des problèmes. Tôt ou tard. La tour de Pise est là. Quand on parle de la tour de Pise, oui, la tour de Pise est là. Il y a eu quelque chose qui ne s'est pas bien passé. C'est pour ça que c'est un monument et on continue à le voir. Et ça nous enseigne, à nous autres qui sommes ingénieurs, ainsi de suite, qu'il faut faire très attention. La nature dans laquelle cette nature-là aussi a son évolution. Donc, c'est ce que je peux vous dire dans le cas d'espèce, sans vous dire.
D'accord. Merci beaucoup. Merci. Je sais que nos compatriotes, nos auditeurs sont aussi impatients rentrer même d'ailleurs en ligne pour participer à ce débat avec nous. Nous allons maintenant leur donner la parole. Ils peuvent nous appeler sur le 90 86 35 35 ou le 91 36 63 75. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos partenaires.
93.5. Canal FM.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35 91 36 63 75. Premier auditeur. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, ma directeur.
Papa Sibiti, comment vous allez?
Bonjour, merci, je vais bien. Bonjour à tout le plateau.
D'accord.
Mon fils, comment il s'appelle? Jacques est là.
Oui, oui, Jacques est là.
Cette histoire, à qui la faute? Premièrement, au ministre des Sciences, aux ingénieurs, aux architectes. Ils ont constaté pourquoi ne pas démolir l'immeuble. Voilà, ils ont entendu. Voilà les conséquences. Moi, c'est ce que, depuis, la NFM l'a dit ce matin, je n'ai pas pu entrer en ligne. Mais ça, là, si j'ai tort, mon directeur, et Pascal, et mon fils, et tous les gardiens, là, dites-moi que papa, si vous dites, vous n'avez pas raison. Au lieu d'attendre qu'il y ait des victimes, est-ce que le ministère des TP, sécurité, ne peut pas donner l'ordre pour qu'on les détruise? Pourquoi encore chercher à rapistoler et ici? Non! Ce dont vous parlez maintenant, pour la Lunato, il n'y a pas quelqu'un pour prendre les décisions. Vous attendez que mort d'homme s'en suive avant de réagir. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Papa Sibiti, pour votre intervention. 90 86 35 35 91 36 63 75, les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir au Club de la Presse de ce lundi. Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Ça va bien, chez vous?
Ça va aussi, c'est Patrick?
C'est Patrick.
Voilà. Patrick, allez-y.
Alors, allô?
Oui, allez-y, Patrick.
Ok. Je salue tout le monde. J'ai apprécié le développement de tout un chacun. Mais, vous savez, aujourd'hui, c'est problème de bâtiment qu'on parle parce que un cas est arrivé. Mais observez, regardez tout petit peu quand vous passez, vous prenez nos routes. Que, bon, si je peux dire les routes bitumées dans la grande ville. Est-ce que vous voyez comment les pancartes, les panneaux d'affichage sont exposés qui peuvent s'écrouler à tout moment aussi sur les véhicules? Vous voyez des feux qui sont rouillés, mais qui sont en bordure des routes, qui peuvent tomber à tout moment quand un petit vent souffle, mais personne ne dit rien. Des fers, quand vous touchez même, vous voyez que ça, c'est le plus solide qu'en fait, c'est le plus solide. Mais c'est aussi des dangers publics, c'est parce que pour le bâtiment est arrivé, qu'on en parle. Mais est-ce que nous allons toujours attendre que ce mal n'arrive avant de prendre des dispositifs? Bonne interrogation, bonne émission.
Merci Patrick pour votre intervention. Merci d'avoir appelé dans cette émission pour donner votre avis. 90 86 35 35 91 36 63 75. Votre avis nous importe. Allô?
Allô?
Bonjour.
Oui, bonjour monsieur.
Votre nom c'est?
Monsieur Nick.
Monsieur Lee.
Nick.
Nick, ok, allez-y.
Oui, oui. Mm. Bon, juste pour vous dire merci pour le débat. Vraiment, vous avez tout dit. Et moi, j'aimerais attirer l'attention du maire de la commune Rose 2. Dans cette commune, vous savez que nous avons beaucoup d'étrangers. Et qui dit étrangers, eux, ils maximisent pour avoir les bâtiments. Ils ne veulent pas citer pour indexer une ethnie donnée. Il y a des R plus 3, plus 4 qui se construisent. Et quand vous voyez vraiment, ça inquiète. Donc, moi, je demande que le maire fasse quand même répertorier ces R plus-là et voir s'ils sont dans l'ordre même de pouvoir le mettre en place. Si ce n'est pas le cas, même si ces personnes ont fini, on bloque la maison. C'est ce que je pense pour pouvoir éviter le pire, quoi. Merci, bonne émission.
D'accord, merci à vous aussi, monsieur Nick, pour votre intervention. 90 86 35 35 91 36 63 75, les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir au Club de la Presse. Allô.
Oui, bonjour.
Bonjour, monsieur Kofi.
Oui.
Comment vous allez?
Bien.
Allez-y.
Votre invité, il a fait un développement que j'apprécie, mais... je veux lui demander, nos routes, quand il pleut et que l'eau déverse complètement remplissait ces routes, on n'arrive plus à discerner la chaussée des caniveaux. Ça ne tue pas plus que l'immeuble là de la dernière fois. Je prends le marché de Hidjanaoui qui a été construit par un architecte qui d'ailleurs occupait la tête même de l'ordre des architectes du Togo, qui n'est plus aujourd'hui. Ce marché de Hidjanaoui, ils ne sont pas là où ils n'étudient pas le terrain là-bas avant de construire le marché là-bas, où ils attendent qu'il y ait des morts d'hommes d'abord avant de réagir. C'est pas vrai, l'immeuble là, hein. Il y a pire encore à Lomé. Merci.
Merci, M. Kofi, pour votre intervention. 90 86 35 35 91 36 63 75, les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir au Club de la Presse. Allô.
Allô.
Oui, bonjour.
Bonjour, la journaliste.
Votre nom, c'est
Natima.
Ah, Natima. Comment vous...
moi,
allez-y.
Je voulais intervenir dans ce que vous avez parlé. Que sont ceux qui donnent l'ordre et ça résiste. Vous avez notre Togo, comme Jacques l'a dit, c'est ça. D'autres, quelque part, d'autres ont la force. La force, là, c'est quoi? Quelqu'un, on organise les élections, quelqu'un ne gagne pas, mais on prend, on lui donne. Et c'est ça. C'est ça qui fait que vous vendez le Togo. C'est un état du désordre, comme l'autre l'a dit. Merci et bonne émission.
Merci Natima pour votre intervention. Merci de nous avoir appelé et d'avoir donné aussi votre point de vue sur ce sujet débattu ici au Club de la Presse. 90 86 35 35. Allô.
Allô.
Oui, bonjour.
Bonjour.
C'est Monsieur Nyamavo.
Non, c'est Monsieur Kossi de Sabado.
Ah, Monsieur Kossi de Sabado.
Oui.
Ah, d'accord, allez-y.
Je salue le plateau.
Le plateau aussi vous salue.
Merci. Bon, je veux parler d'abord sur le bâtiment de l'Alonato. Vous avez parlé de ça et vous avez tout dit pratiquement. Je crois que le problème que nous avons, le problème d'autorité, celui-ci dit qu'il a le poids ou bien la force, il est plus puissant que l'autre. Et c'est ça qui nous met. Vous voyez, celui qui est encore de pont sur le bâtiment Sabado, la mairie est intervenue, mais il y a une voie plus élevée qui l'a autorisé à continuer les travaux. Et vous voyez ce qui s'est passé. Je vous dis, moi, je suis à côté là-bas. Moi, tout le monde disait que le bâtiment là-bas s'effondre un jour. Tout le monde le dit. Tout le monde qui passe par là, il le dit. Et c'est arrivé. C'est comme ça que notre pays fonctionne. Vous voyez que le mairie arrive à arracher leur pouvoir. Leur pouvoir. Le gouvernement a toujours la même ligne sur les mairies. Les mairies sont là pour la forme. leur foi ne porte pas. Vous voyez le train qui a mis 3 morts. Ce n'est pas de trop, c'est de trop. Donc, le bâtiment de la Lonato, moi je ne passe plus par là. Hein. Franchement, je vous dis, j'ai peur de passer par là. C'est un jour où je peux pas m'attendre aussi. Merci de bonne émission.
Merci beaucoup, M. Kossi. Nous avons quelques minutes pour recevoir notre dernier auditeur pour le compte de cette émission. Allô? Allô, bonjour.
Allô?
Oui, bonjour.
Oui, non, c'est M. Kofi qui revient.
Oui, oui, M. Kofi, allez-y.
Je veux dire que,
oui, allez-y,
que cet immeuble effondré ne soit pas une aubaine pour ceux qui sont dans le bâtiment, ces architectes qui vont au Ghana, un an, deux ans, reviennent, soi-disant, qui sont des architectes, pour racketter la population. Parce que ça, c'est un danger, hein, vu la façon dont les gens prennent la parole. C'est tout ce que j'ai voulu dire.
D'accord. Merci, monsieur Kossi, pour cette intervention. Alors, nous allons revenir en plateau pour faire un dernier tour de table, mais on fait un clin d'œil au niveau de la technique. On revient.
93.5. Canal FM.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant, tel que je l'ai dit, nous allons faire un dernier tour de table et clôturer l'émission. Nous allons donner la parole à notre invité, Monsieur Marius Bani. Marius, vous avez écouté les uns les autres. Il y a Monsieur Kossi qui posait la question concernant nos routes et aussi nos marchés. Il a nommément cité même le marché de Hidranawi. Mais au-delà même des immeubles, est-ce qu'il ne faut pas toucher aussi les infrastructures aujourd'hui?
Oui, ce sont la question de l'assainissement dans la ville de Lomé. Je pense que l'Ordre national des ingénieurs du Togo est intervenu là-dessus depuis 2019. Donc, je pense pratiquement, à part 2020, où il y avait la question de Covid, mais on a quand même fait un travail 2021. Il y a un travail qui a été fait, qui est remonté là où ça doit remonter. Donc, maintenant, après, et dans l'application des solutions qui ont été proposées, donc... ça, c'est une autre étape. La décision ne nous appartient pas. Mais il faudrait que la population sache, j'en ai parlé à certains de vos confrères, que l'Ordre a fait un travail et l'Ordre continue à faire son travail et sera toujours disponible pour ce travail-là, de manière à donner les éléments de décision aux décideurs pour que ça puisse se faire. Sur cette question, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi tout ce qui est des règlements qui ne provient pas de notre part. Donc, nous allons essayer de nous y adapter avec les moyens et la connaissance et les technologies que nous avons. Mais là, sur d'autres aspects, quand on parle des routes, on a parlé de panneaux, un certain nombre de choses. Et il faut que la population comprenne. Et pour toute chose, il y a des spécialistes, ceux qui... Quand quelqu'un a un problème de dent, ce n'est pas moi qui viens voir. Il y a un dentiste. Donc, chacun avec son travail. Il faut le comprendre. Sinon, on va se créer des problèmes nous-mêmes. On va créer que l'État, mais ce n'est pas l'État, en fait. Il y a de la réglementation. Comme on dit, les ordres professionnels ont été mis en place à dessein. Et ces ordres ont été dotés de certaines prérogatives. Nous avons des prérogatives pour poursuivre des gens. Lorsque, sur les questions d'ingénierie, les gens ont fait des fautes. Nos membres qui sont sous cette coupe-là, nous avons droit de les poursuivre, de les sanctionner, ainsi de suite. Et donc, ils sont encadrés. Il y a plusieurs professions qui sont encadrées. Ce que je vais dire, c'est que la population puisse aller vers les spécialistes de chaque domaine et demander, ne serait-ce que le conseil. Des gens viennent à nous, disent, je vais faire tel projet. Ils disent, bon, d'abord, va chez l'architecte. Il dit, ils sont chez... on va voir. On appelle nos confrères architectes, dit, bon, voilà, le monsieur, on a analysé... Et donc, ça se fait. Il y a des projets qui sont faits comme ça. Donc, c'est ce qu'on demande à la population de faire, de manière à ce que, le pays étant petit, qu'on puisse y vivre de manière harmonieuse et qu'on soit toujours dans une dynamique paisible, ce qui va nous aider dans nos objectifs de développement.
Alors, oui, justement, Marius, comment le partenariat ou la collaboration État-ingénieur-population peut-elle être entretenue alors pour que, du moins, on arrive vraiment à ce que vous venez alors de dire?
C'est peut-être le lieu de le rappeler. C'est-à-dire que l'État, pour nous, l'État a eu une oreille extrêmement attentive lorsque la question a été abordée parce que pour les autres professionnels des autres pays, je pense que nous sommes l'un des autres qui, en deux ans, moins de deux ans, a été mise en place et au plus haut niveau. Le partenariat au niveau avec l'État, c'est bon. Aujourd'hui, avec les populations, nous avons cette dynamique de sensibilisation que nous continuons à faire avec les moyens qui sont disponibles. Il nous faut plus de moyens pour faire plus. Et les numéros, par exemple, de l'ordre, lorsque nous faisons les émissions, nous les donnons. Et le siège est ouvert, les gens peuvent venir pour qu'on puisse regarder ensemble, au-delà des activités peut-être que nous faisons, porte ouverte pour que les gens viennent à nous. On en a déjà fait avant Covid. Depuis Covid, bon, c'est un peu plus c'est un peu plus espacé, on y reviendra, pour que ça puisse aider la population à avoir des solutions, des solutions viables.
D'accord, vous parlez de numéro, nous allons faire un tour de table avec nos confrères, on revient à vous pour le numéro. Jacques ?
Non, je crois que Pascal, tout juste pour dire merci pour l'émission d'aujourd'hui et surtout pour notre ami Marius qui a donné vraiment le meilleur de lui-même par rapport à ce qu'on attendait de lui et inviter nos compatriotes. C'est vrai, il a avancé quelque chose tout à l'heure. Pascal, vous savez, le Togolais, d'abord, pour acheter le terrain, il fait le prêt. Pour construire, il fait le prêt. Pour mettre la tôle, il fait le prêt. Pour badigeonner, il fait le prêt. Donc, vous voyez que c'est un peu souvent compliqué pour que le compatriote là aille effectivement vers ces personnes-là pour obtenir les permis de construire. Mais il est important. Vous savez, il est important de le faire. C'est vrai que la brousse que nous avons souvent par rapport aux constructions n'est pas tellement adéquate par rapport à ce que nous voulons. Mais il faut le faire. Je voulais m'arrêter en décernant un carton vert à la fondation Assal de Mme Abira Bonfo, qui fait vraiment un travail extraordinaire. J'ai suivi le reportage la fois passée par rapport à cette fille qui a eu un chèque de, je crois, 5 millions pour poursuivre ses études. C'est des choses quand même qu'il faut encourager. Inviter l'État. Pascal, quand moi je serai ministre dans ce pays, j'ai un grand projet. Le projet, c'est que toutes les filles, les garçons qui auront, par exemple, leur licence à partir de 20 ans, 22 ans, finis, il faut les brancher à des postes pour que ces enfants-là puissent vraiment donner le meilleur d'eux-mêmes. Une fois encore, félicitations à la Fondation. Bon vent à cette fille-là et qu'elle continue et qu'elle évite.
D'accord.
Il ne faut pas que les gens commencent par lui envoyer les SMS pour la soutirer ce qu'elle a eu, hein, mais qu'elle vraiment essaye de conserver ce qu'elle a reçu.
D'accord. Si vous devenez ministre, je ne sais pas, vous n'allez pas oublier quand même Didier. Didier ?
Oui, bon. qu'il me nomme seulement quelque part aussi. Ou bien, comme on dit, à me foufou, mais on a aussi bien, on a un bobo. Non, mais ce que nous disons, c'est son problème, ça reste un problème de société. Et si on n'y prend pas garde, ça peut devenir encore plus dangereux dans les années à venir. Vous savez, le sol de Lomé, comme il le dit, c'est un sol changeant. Au fur et à mesure des années, avec les précipitations et le nombre de pluies que nous avons, c'est un sol changeant. Et donc, on peut commencer par résoudre ce problème si l'État continue de porter les projets de logements sociaux. Et si on laisse les populations construire elles-mêmes, chacun fait ce qu'il veut, je crois qu'on reporte juste le problème. Donc, encouragement au projet de logements sociaux et ça permettra de résoudre beaucoup de problèmes à l'avenir.
Okay. Oui, Gosson, 30 secondes.
Comme Papa Sibiti l'a souhaité, pourquoi ne pas démolir ? D'être démoli, faut que ça commence par ce que Liberté a relayé aujourd'hui. Parce que là, je le rappelle, c'est un architecte qui ne s'est pas permis d'avoir le permis.
D'accord. Ok, merci beaucoup, Maurice. Nous sommes à la fin de cette émission. Votre contact, votre mot de la fin et aussi votre contact.
Le numéro de l'ordre, c'est le 91 71 76 76. Donc 91 71 76 76. Donc les gens peuvent appeler. Nous sommes là pour donner des conseils.
Tout à fait.
Et pour accompagner et faire de manière démocratique.
D'accord.
Tu vas le dire. Je vais le dire ainsi.
Le numéro, maintenant, je le rappelle, 91.
On travaille avec les mairies, on va le faire pour que ça puisse simplifier.
D'accord. Le numéro, c'est 91 71 76 76. Merci beaucoup, Marius Bani, d'être passé dans cette émission. Je rappelle que vous êtes le vice-président du Conseil national, alors de l'ONIT. C'est l'ONIT qui est l'ordre national des ingénieurs du Togo. Merci d'être passé, Jacques Dakouti, merci d'être passé. Didier Assogba, merci. Gosson Keto Manya, merci. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci à vous tous qui nous avez suivis, vous qui nous avez appelé aussi, merci à vous. Michel Tomiga a assuré la mise en onde. La mise en ligne a été assurée par Géraud Akucha. Je suis Pascal Ossou. Je vous retrouve demain mardi à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.
Drumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me.
Yo, yeah. This is why Clef Refugee Camp cries little bass sits up here on the bass. While I'm on this road, I got my girl L. One time, hey yo L, you know you got the lyrics.